Évangile selon Luc, au chapitre 9e. Au verset 51e. Il arriva, comme les jours de son assomption s'accomplissaient, que Jésus dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem, et il envoya devant sa face des messagers, et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis. Et ils ne le reçurent point parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme aussi fit Élie? Et se tournant, il les censura fortement et dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et ils s'en allèrent à un autre village. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi. Et il dit, Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi va et annonce le royaume de Dieu. Et un autre aussi dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Au chapitre 10e, au verset 29e, le docteur de la loi, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus répondant dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi un lévite étant arrivé en cet endroit-là s'en vint, et le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion, et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie, et eut soin de lui. Au chapitre 13e. Au verset 22e. Et il allait par les villes et par les villages enseignant et poursuivant son chemin vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, Seigneur, ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre? Et il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et heurter à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, et que répondant, il vous dira, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues, et il dira, je vous dis, je ne vous connais pas. ni ne sait d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Quelques versets plus loin, dans le même chapitre encore, au verset 33e, « Il faut que je marche aujourd'hui et demain, et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule s'a couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est abandonnée, et je vous dis que vous ne me verrez point jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Au chapitre 17e, au verset 11e, il arriva qu'en allant à Jérusalem, il traversait la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent, et ils s'arrêtèrent de loin, et ils élevèrent la voix, disant, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Chapitre 18e, verset 31e, et prenant à lui les 12, il leur dit, voici nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme seront accomplies, car il sera livré aux nations. On se moquera de lui, on l'injuriera, et on crachera contre lui, et après qu'ils l'auront fouetté, ils le mettront à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. Et il ne comprit rien de ces choses, et cette parole leur était cachée, et ils ne comprirent pas les choses qui étaient dites. Chapitre 19e, verset 28e, et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et au verset 36e, et comme il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin, et comme il approchait déjà la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples se réjouissant se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule, « Maître, reprends tes disciples. » Et répondant, il leur dit, « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si tu eusses connu, toi aussi au moins, en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux. » Et un dernier passage au chapitre 23e. Au chapitre 23e, verset 33e. Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » « Il est bien connu, chers amis, que l'évangile selon Luc est l'évangile qui nous présente le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dans sa parfaite humanité. L'évangile selon Luc est l'évangile du Fils de l'homme. C'est l'évangile de l'homme parfait. C'est aussi l'évangile qui, plus que les autres, nous présente le chemin qu'il a suivi sur cette terre. Il est parlé du chemin du Seigneur Jésus dans les quatre évangiles, mais c'est spécialement dans l'évangile selon Luc qu'il en est parlé. Plus dans l'évangile selon Luc, il nous est parlé du chemin que le Seigneur Jésus a suivi sur cette terre. Qui dit homme, dit chemin à suivre sur cette terre. Il est donc tout à fait compréhensible que dans cet évangile, il nous soit parlé plus souvent du chemin que le Seigneur Jésus a suivi, plus souvent que dans les autres évangiles. Avec le premier passage que nous avons lu au verset 51e du chapitre 9e, nous avons la dernière étape du chemin du Seigneur sur cette terre. Le Seigneur Jésus s'en va à Jérusalem et il dresse sa face résolument pour aller à Jérusalem. Jérusalem est là le but du chemin que le Seigneur avait à suivre. C'est toujours ce but qui est mentionné, Jérusalem. C'est vers Jérusalem que Jésus devait se rendre. Jérusalem, comme nous l'avons lu, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Le Seigneur Jésus avait un chemin à suivre, et ce chemin, chers amis, devait aboutir à Jérusalem, c'est-à-dire à la mort et à la mort de la croix. Et ce chemin, le Seigneur Jésus l'a suivi fidèlement jusqu'au bout. Il dresse donc sa face résolument pour aller à Jérusalem. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 50e, où il est dit « J'ai dressé ma face résolument comme un caillou ». Et dans ce chapitre 50e, nous voyons la parfaite dépendance de l'homme Christ Jésus. Comment a pu-t-il suivre ce chemin? Comment a-t-il pu ainsi dresser résolument sa face pour aller jusque-là, la ville qui tue les prophètes? Le Seigneur Jésus le savait très bien. Comment donc a pu-t-il ainsi suivre un tel chemin? Lui, un homme, mais aussi l'homme parfait. En effet, en Ésaïe 50, nous avons les sentiments qu'animait le Seigneur. « Je regarderai à mon Dieu, je ne serai pas confus. Je regarderai à mon Dieu, je ne serai pas confondu. Il m'aidera. » Et c'est ainsi que le Seigneur, homme parfaitement dépendant, regardant toujours à Dieu son Père, comptant toujours sur Dieu son Père, a pu ainsi, tel que l'homme parfaitement dépendant, suivre un tel chemin, marqué par l'outrage et l'ignominie, un chemin qui devait aboutir à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Les jours de l'Assomption du Seigneur s'approchent. Les jours de son Assomption. Ce n'est pas à proprement parler les jours de son Ascension. Les jours de son Assomption, c'est-à-dire les jours où il allait être élevé de la terre sur la croix. C'est cela l'assomption du Seigneur. Plus tard, par-delà la mort, une fois ressuscité, le Seigneur alors monterait au ciel, et cela, nous le savons bien, est son ascension. Les jours de son assomption, les jours où il allait donc être élevé de la terre sur la croix, s'approchaient. C'est ainsi que commence cette dernière étape du chemin du Seigneur sur la terre. Les jours de son assomption s'approchent, il dresse sa face résolument pour aller à Jérusalem, et voici qu'il envoie devant sa face des messagers. Et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis, et ils ne le reçurent point, parce que sa face était tournée vers Jérusalem. On a dit hier, on a rappelé hier que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, mais les Samaritains le leur rendaient bien, et nous en avons la preuve ici. Ils ne le reçurent point parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Alors, ils s'en allèrent à un autre village. Il arriva comme ils allaient par le chemin. Remarquons, chers amis, la fréquence de la mention du chemin suivi par Jésus, de ce verbe « aller », comme un peu plus tard nous verrons le verbe « marcher ». Il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles ». Tout d'un coup, tandis que le Seigneur suit son chemin, tout d'un coup fait irruption un homme vers lui qui lui dit « Seigneur, je te suivrai où tu ailles ». Il semble que le Seigneur lui dit « Ton désir est excellent, mon ami. C'est un excellent, il ne peut pas y en avoir un meilleur de désir. Me suivre, moi, où que j'aille, c'est un désir magnifique. Mais as-tu bien calculé la dépense? As-tu réalisé ce que comporte un tel désir? Tu veux me suivre, moi, le Fils de l'homme. Mais sais-tu que les renards de la terre ont des tanières, que les oiseaux du ciel ont des nids, mais que le Fils de l'homme, lequel tu veux suivre où qu'il aille, il n'a pas un lieu où reposer sa tête. As-tu bien pensé à cela? Ce n'est pas une petite chose que de venir au Seigneur, ce n'est pas une petite chose que de suivre le Seigneur dans ce monde. Prends note de la chose. Les renards de la terre ont des tanières, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et c'est cela, chers amis, l'évangile selon Luc, on l'a dit, c'est l'histoire sacrée d'un homme qui n'a pas eu de lit pour passer les premiers jours de sa vie. Il a vécu tel qu'un petit enfant dans une crèche. C'est l'histoire d'un homme qui, durant sa vie, n'a pas eu un lieu pour reposer sa tête. C'est enfin l'histoire d'un homme qui n'a pas eu de lit pour mourir. Il est mort sur une croix. Et c'est cela, l'évangile selon Luc, c'est l'histoire sacrée de la vie d'un tel homme qui n'a pas eu de lieu pour reposer sa tête, et cela jusqu'au terme de sa carrière. La parole de Dieu ne nous dit pas ce qu'il en est advenu de cet homme. Il avait dit « Je te suivrai où tu ailles ». A-t-il suivi le Seigneur? Nous ne le savons pas. Il y en a un autre qui désire suivre le Seigneur, mais les vivants le préoccupent, les morts tout d'abord. les morts le préoccupent. Laisse-moi ensevelir mon Père. Laisse les morts ensevelir leurs morts, dit le Seigneur. Un autre encore qui vient vers le Seigneur, tandis qu'il est en chemin. Je te suivrai, Seigneur, mais j'aimerais d'abord aller prendre congé des miens. Alors le Seigneur de lui répondre ceci, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Cet homme, le troisième, qui avait dit « Je te suivrai, Seigneur », avait mis la main à la charrue, mais il regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Sommes-nous tous venus au Seigneur, chers amis? Sommes-nous tous venus au Seigneur? Pouvons-nous tous parler du Seigneur comme étant celui qui nous a aimés, et même mieux, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi? Avons-nous tous eu un jour le désir de suivre le Seigneur? Pour suivre le Seigneur, il faut venir à lui. Ces hommes ont fait cela, ils sont venus au Seigneur. Ils ont dit qu'ils voulaient le suivre. La parole ne nous dit pas comment ils ont accompli leur désir ou si en fait ils l'ont accompli. Mais ces exemples sont là pour nous inviter à venir au Seigneur ce soir, si nous ne sommes jamais encore venus à lui. C'est encore un jour de grâce. Hier, on nous a dit que c'était peut-être le dernier, mais voici que la journée d'aujourd'hui nous a été accordée. Encore un jour de grâce. Le jour de demain ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. C'est donc ce soir, au terme de ce nouveau jour de grâce, qu'il nous faut, chers amis, qui n'avons pas encore la vie de Dieu, c'est ce soir qu'il nous faut venir à lui pour avoir la vie et la vie pour l'éternité. Pas seulement dire « Je te suivrai, Seigneur, où tu ailles », mais de fait, venir à lui et le suivre. Dans le deuxième passage que nous avons lu au chapitre 10e, nous avons donc affaire au récit ou à la parabole du bon ou du miséricordieux samaritain. Elle nous a été déjà lue hier soir, et également hier soir, on a insisté sur le chemin que suivait le samaritain, duquel il est dit « Un samaritain allant son chemin vint à lui ». Il était donc question, dans cette parabole, d'un homme laissé à demi-mort. Il partait depuis Jérusalem, le lieu de la bénédiction. Il suivait un chemin qui descendait, s'en allant jusqu'à Jéricho, le lieu de la malédiction. Il suivait ce chemin, et là, il est tombé entre les mains de brigands qui l'ont laissé à demi-mort au bord du chemin. Des hommes, des représentants de la loi ont passé, nullement impressionnés par ce spectacle, certainement affligeant et émotionnant. Nullement impressionnés, ils continuent leur chemin. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion, et s'approcha, et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Qui est donc ce Samaritain, sinon le Seigneur Jésus lui-même? C'est le Seigneur Jésus qui s'est approché de nous dans notre misérable état. Il faut que nous ayons conscience de notre pauvre, misérable état. La parole de Dieu dit à deux reprises que nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Être mort dans ses fautes et dans ses péchés, est-ce que l'on peut concevoir un tableau plus terrible de l'état naturel de l'homme. Voilà ce que tout homme, par nature, est aux yeux de Dieu, mort dans ses fautes et dans ses péchés. Mais tel que le miséricordieux Samaritain, le Seigneur Jésus est venu jusqu'à nous. Il nous a vus dans notre bas état. Il a eu compassion de nous et il s'est occupé de nous pour que nous ayons ce salut et cette vie éternelle dont nous jouissons déjà maintenant. Compassion, les compassions de Dieu, grand sujet des Écritures, depuis le début jusqu'à la fin, les compassions de Dieu, et qui ont été manifestées d'une façon si éclatante par Jésus lui-même au jour de sa chair. Il est dit qu'il a été ému de compassion en présence d'une âme dans la détresse, mais il a été aussi ému de compassion en présence du peuple tout entier qui le voit. Il voit ses foules qui s'écoulent, tel qu'un troupeau qui n'a pas de berger. Et il nous est dit que Jésus a eu compassion de son peuple. Les compassions de Jésus sont un des sujets les plus édifiants de l'Évangile. Il est bon, chers amis croyants, que nous relisions l'Évangile dans cette pensée de voir les diverses manifestations des compassions de Jésus à l'égard d'une âme ou à l'égard d'une collectivité, c'est-à-dire d'une foule tout entière. L'heure avance et nous sommes obligés de passer plus loin au chapitre 13e. Remarquons, chers amis, toujours la pensée de ce chemin suivi par Jésus et qui devait aboutir à Jérusalem. Il allait par les villes et par les villages enseignant et poursuivant son chemin vers Jérusalem. Il enseignait, tandis qu'il suit ce chemin qui devait aboutir à Jérusalem. Et en quoi, en ce moment-là, consiste cet enseignement? Il enseignait. Quel était donc cet enseignement? Un appel, rien d'autre, mais un appel solennel, parce que c'était le dernier que le Seigneur faisait entendre. Une question lui est posée tout d'abord. « Seigneur, ceux qui doivent être sauvés, sont-ils en petit nombre ?» Et il leur dit, « Luttez pour entrer par la porte étroite. » Voilà l'appel du Seigneur. « Car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Il y en a beaucoup qui se mettront à heurter à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous. » Et alors il leur dira, « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. » Ils diront encore, mais pourtant nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné dans nos rues. Et le Seigneur de leur dire, je ne vous connais pas, allez-vous-en loin de moi, ouvriers d'iniquité. C'est donc un appel qui retentit ce soir encore. Il revêt une solennité particulière dans la bouche du Seigneur Jésus, parce que nous sommes là tout à la fin de sa terrestre carrière. Il appelle une fois encore, luttez pour entrer par la porte étroite. Vous savez, à côté de la porte étroite, à côté du sentier resserré, il y a un chemin très large. Et ceux qui suivent le chemin très large sont nombreux, mais ce chemin mène à la perdition. Mais entrez par la porte étroite, suivez ce petit sentier resserré, ce sentier-là aboutit à la vie éternelle. Luttez donc pour entrer par la porte, porte étroite. Luttez donc, il y a un effort à faire. Luttez donc, le jour vient où la porte sera fermée. Vous direz alors, Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous. Et alors le Seigneur de dire, je ne vous connais pas, allez-vous-en loin de moi. Ouvrier d'iniquité, n'attendons pas que le Seigneur Jésus doive dire de telles paroles définitives. Aujourd'hui, luttons pour entrer par la porte étroite. Entrons par la porte étroite. la porte, c'est Jésus lui-même. Il l'a dit, je suis la porte, afin d'avoir la vie, le pardon de Dieu, le salut de Dieu, la vie éternelle. Et le jour vient, et il est plus proche que nous ne pensons, où cette porte sera fermée. Il sera alors trop tard, on pourra dire et redire, Seigneur, ouvre-nous. On entendra alors cette parole terrible, retirez-vous loin de moi, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. À la fin du chapitre, c'est Hérode qui désire, c'est Hérode qui cherche à mettre à mort le Seigneur. Pour une fois, des pharisiens sont animés de bons sentiments à l'égard du Seigneur. Ils viennent lui dire, retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. Et le Seigneur de leur dire, allez, dites à ce renard. Et il y a cette parole que nous avons lue, il faut que je marche aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je suis consommé. Il faut que je marche, est-il dit. Comme plus tard, le Seigneur dira que, le Seigneur dira de lui-même, il faut que le Christ souffre. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il faut que le Christ soit mis à mort. Il faut qu'il ressuscite le troisième jour. S'il s'agit de son ascension, l'apôtre Pierre, dans son discours au début du livre des Actes, dit « Lequel il faut que le ciel reçoive ?» Et enfin, l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, peut dire « Il faut qu'il règne, chers amis, s'il a fallu que le Seigneur Jésus marche sur cette terre, s'il a fallu qu'il souffre et qu'il meure, il a aussi fallu qu'il ressuscite, qu'il soit élevé dans la gloire. Il faut également qu'il règne, et un jour, tel que le Fils de l'homme, il règnera sur les œuvres de ses mains. C'est là sa domination universelle dont nous avons le tableau au psaume 8e. Il faut que je marche aujourd'hui, demain, le troisième jour, je suis consommé. Il n'est pas possible, dit le Seigneur, il n'est pas possible que un prophète périsse hors de Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux que Dieu lui a envoyés. Au chapitre 17e, nous voyons le Seigneur qui s'en va à Jérusalem, verset 11e. Il traverse la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, il rencontre 10 lépreux. Et ces 10 lépreux font appel au Seigneur, c'est le cri de la foi. Ils désirent être délivrés de leur lèpre. Le Seigneur leur indique le chemin à suivre, nous ne pouvons pas entrer dans le détail, c'est du reste pas tout à fait notre pensée. Et les lépreux obéissent. C'est un exemple tout simple, mais un exemple parlant de l'obéissance de la foi. Jésus leur dit de faire ceci, et ils le font. Et voici que, tandis qu'ils obéissent au Seigneur, ils recouvrent la santé. Ils sont guéris de cette terrible maladie qu'est la lèpre. Mais quand il s'agit de remercier le Seigneur, il n'y en a qu'un qui revient sur ses pas. Il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Et c'était un Samaritain. Jésus répondant, dit les 10, n'ont-ils pas été rendus nets? Et les 9, où sont-ils? Il ne s'en est point trouvé qui soit revenu pour donner gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. Et il lui dit, lève-toi et t'en va, ta foi t'a guéri. Les lépreux ont été guéris. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et sauvé maintenant par la grâce infinie de Dieu, qu'avons-nous à faire sinon à rendre grâce, à rendre gloire, à exprimer notre reconnaissance à Dieu, notre grand Dieu sauveur, non seulement de nos lèvres, mais d'une façon pratique, dans notre vie de tous les jours, chers amis croyants, nous avons ainsi à exprimer à Dieu notre reconnaissance en lui rendant un fidèle, un bon et fidèle témoignage. Au chapitre 18e, le Seigneur continue en disant « Voici, nous montons à Jérusalem » et il donne à ses disciples qu'il a pris à part un tableau complet de ce qu'allait lui arriver. Remarquons, en effet, le Seigneur dit « Voici toutes les choses qui vont être accomplies à mon égard. Le Fils de l'homme sera livré aux nations. » Deuxième point, on se moquera de lui. Troisième point, on l'injuriera. Quatrième point, on crachera contre lui. Cinquième point, après qu'ils l'auront fouetté. Sixième point, ils le mettront à mort. Et enfin, septième point, le troisième jour, il ressuscitera. Ainsi, le Seigneur tient à mettre au courant ses disciples. Il l'avait déjà fait plus d'une fois dans cet évangile, spécialement au chapitre 9e. Il l'avait dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre, et même, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et au chapitre 17e, il avait dit aussi que ce même Fils de l'homme régnerait sur la terre tout entière, comme l'éclair brille depuis un côté de dessous le ciel jusqu'à l'autre côté de dessous le ciel, ainsi sera la gloire du Fils de l'homme en son jour. Mais auparavant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Mais ici, le Seigneur leur dit qu'il souffrira jusqu'à la mort de la croix. Et il leur dit aussi qu'il serait vainqueur de la mort, que le troisième jour, il ressusciterait. Mais les disciples n'ont pas compris ces choses. Il faudra attendre le jour de la résurrection, il faudra attendre le lendemain de la résurrection, il faudra surtout attendre le jour de la venue du Saint-Esprit sur la terre, pour que les disciples puissent comprendre pleinement ce qu'était la résurrection du Seigneur Jésus. Au chapitre 19e, nous voyons le Seigneur continuant son chemin. Au verset 28e, ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Il allait devant eux. Nous avons dans l'Ancien Testament une très belle figure du Seigneur Jésus sous la forme de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il nous est dit dans le livre des Nombres, qui est essentiellement le livre de la marche du peuple au désert, il nous est dit au chapitre 10e, au verset 33e, que l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'en alla au désert devant le peuple, le chemin de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Ce chemin de 3 jours représentait déjà, chers amis, le chemin de 3 jours dont le Seigneur Jésus parle ici dans l'Évangile. Quant à lui-même, je marche aujourd'hui et demain et le 3e jour, je suis consommé. Que sont donc ces 3 jours, sinon le jour de la mort, le jour du tombeau, le jour de la résurrection? Divine arche de l'Alliance, nous voyons dans ce verset du chapitre 19e de Luc, nous voyons le Seigneur Jésus s'en allant devant eux, comme il s'en est allé devant nous tous, chers amis croyants. Il est allé devant nous, mourir à la croix du calvaire, pour nous préparer un lieu de repos, et l'âme croyante peut chanter maintenant déjà, repos, divin repos, nous l'avons sur la terre. Et à la fin du chapitre, nous avons ce que l'on appelle habituellement l'allée royale du Seigneur, son entrée à Jérusalem, mais comme l'homme de lettres d'il y a quelques siècles, converti et pieux, a pu le dire, Jésus à ce moment-là n'entrait pas à Jérusalem pour monter sur le trône de gloire en Sion, mais pour monter sur le trône sanglant de Golgotha. Les disciples saluent, les disciples, les foules disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une telle parole, parole du psaume 118e, ne se réalisera que plus tard, quand réellement le Seigneur Jésus entrera dans son règne, quand le Seigneur Jésus montera sur son trône de gloire en Sion, se réalisera alors cette parole du psaume 118e. Mais le Seigneur Jésus ici s'en va donc pour monter sur le trône sanglant de Golgotha, tandis qu'il allait son chemin, est-il dit au verset 36e. Et comme il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et alors, il y a donc cette voix qui se fait entendre, et il est ajouté au verset 28e, « Paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Qu'ont dit les anges au début de cet évangile ? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix. Et voici qu'à la fin de l'évangile, il est dit « paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Gloire dans les lieux très hauts, toujours. Mais maintenant, ce n'est plus sur la terre, paix, mais c'est « paix au ciel ». Pourquoi ? Mais le Seigneur Jésus était venu en grâce au milieu de son peuple pour apporter la paix. On ne l'a pas voulu. On l'a rejeté, le Seigneur Jésus s'en est allé, la paix est partie. Au commencement de l'Évangile, la paix était annoncée sur la terre, paix. Quiconque recevrait le Seigneur Jésus connaîtrait cette paix. Le peuple d'Israël n'a pas voulu recevoir le Seigneur, alors cette paix s'en est allée. Elle a été momentanément sur la terre, elle s'en est allée, elle retourne au ciel, tandis que le Seigneur Jésus est rejeté et va être tout à l'heure mis à mort. Jérusalem n'avait pas connu les choses qui appartiennent à sa paix, et le Seigneur Jésus prononce cette complainte émouvante sur Jérusalem. Voilà ce qui t'arrivera, des choses terribles qui sont passés, une destruction totale en l'an 70, lorsque Titus et ses armées sont arrivés, dévastant la Palestine, détruisant Jérusalem. Pourquoi, Jérusalem, tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta paix. Paix au ciel, cette paix est partie, elle est partie au ciel. Et puis, un peu plus loin, le Seigneur de dire, tu n'as point connu le temps de ta visitation, visitation en grâce et en miséricorde, tu ne l'as point connu ce temps-là. Voilà pourquoi pierre sur pierre ne sera pas laissé de toi-même. Et enfin, le dernier passage, et nous nous asseyons, chers amis, nous arrivons au terme de ce chemin dont nous avons suivi quelques étapes. Nous arrivons au terme de ce chemin quand il nous est dit au verset 33e du chapitre 23e, et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. C'est donc là qu'a pris fin un tel chemin, quand ils furent venus là, ils le crucifièrent au lieu du Crâne. entre deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. Le lieu du crâne, c'est-à-dire, il y a deux pensées qui se rattachent au nom de ce lieu, le lieu du crâne. D'une part, la colline de Golgotha, vue quelque peu de loin, présente comme un profil, le profil d'un crâne. Il y a, semble-t-il, une interprétation plus profonde que celle-ci. Il y avait en Israël un lieu qui s'appelait le lieu du crâne, et on avait donné à ce lieu ce nom-là, parce que c'était là que l'on jetait les ossements des criminels, des malfaiteurs et des assassins en Israël. Tous les ossements étaient jetés là, et c'est là que le chemin du divin Fils de l'homme, du Saint Fils de Dieu, a abouti. Et quand ils furent venus là, au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent. Et nous sommes, chers amis, maintenant tous en présence de Jésus-Christ crucifié. Ce que l'apôtre Paul voulait entendre, et seulement cela, au début de ses épîtres aux Corinthiens. Je n'ai jugé bon de n'entendre, de ne savoir qu'une chose, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et à la fin de la seconde épître, il dira, s'il a été crucifié en infirmité, néanmoins, maintenant, il vit par la puissance de Dieu, il vit d'une vie nouvelle, la vie de l'homme ressuscité. Nous sommes en présence d'un tel tableau, le tableau de la croix. Et là, Jésus meurt pour un monde perdu. Il meurt pour nous, chers amis. La question se pose, au moment où nous allons clore, conclure, la question se pose, pourquoi, amis, est-ce que Jésus a suivi un tel chemin? Sais-tu pourquoi il a gravi le mont Calvaire? La réponse est simple et poignante en même temps. Jésus t'aimait. Jésus t'aime. Il voulait te sauver. Il est mort pour ton salut, pour ta vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a suivi un tel chemin. Voilà pourquoi il a gravi le mont Calvaire. Il est mort pour nos péchés. Ami, il est mort pour tes péchés. Puisses-tu t'en souvenir et que la vision de Jésus-Christ crucifié touche ton cœur au point que ce soir tu viennes à lui, mettant ta totale confiance en lui, connaissant dès ce soir ce salut, cette vie éternelle, cette paix qui inonde le cœur de tout être qui est venu à Jésus au pied de la croix. Et pour nous-mêmes, chers amis croyants, pour nous-mêmes, qu'avons-nous à faire en présence d'un tel chemin? Eh bien, nous avons à contempler le Seigneur, à considérer les différentes étapes d'un tel chemin, à nous pencher, à nous prosterner en présence d'un tel chemin, à regarder, comme Jean le Baptiseur autrefois, Jésus qui a marché dans ce monde. Jean le Baptiseur, voyant Jésus qui marchait, dit, voilà l'agneau de Dieu. Puissions-nous, chers amis, nous-mêmes être beaucoup occupés du Seigneur, beaucoup penser au chemin qu'il a suivi sur cette terre, un chemin qui ne se termine pas au lieu du crâne, mais au-delà de la mort, par la résurrection, un chemin qui se termine dans la présence même de Dieu. C'est là que le Seigneur Jésus est, il est monté là-haut, c'est là qu'il a pris place, c'est là qu'il nous attend, et c'est de là que nous-mêmes nous l'attendons. Il a dit qu'il reviendrait, il reviendra bientôt. Puissions-nous, en contemplant toujours et en adorant en présence du chemin qu'il a suivi sur la terre, un chemin où ne brille que lumière et sainteté, puissions-nous toujours adorer et adorer toujours davantage.